Et le journal est présenté par Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Plusieurs étendards pour porter la colère dans les rues. Aujourd'hui en France, un foulard violet déployé contre les violences faites aux femmes. Un rassemblement a lieu à 14h à Paris à l'appel du collectif Nous Toutes. Nous entendrons des lycéennes et des lycéens mobilisés dans ce journal.
Et nous entendrons la philosophe Manon Garcia, invitée de la deuxième heure de ces matins du samedi. Elle vient de publier « On ne naît pas soumise, on le devient ».
Les Gilets jaunes appellent à manifester à Paris ainsi qu'en province, à mener des actions un peu partout en France pour ce deuxième samedi de mobilisation.
Le gouvernement tente de reprendre la main sans succès pour l'instant, nous dira Stéphane Robert.
Alors que beaucoup de journalistes sont pris à partie sur les points de blocage, une relation qui se tend encore davantage entre les citoyens et la presse. Analyse à suivre du sociologue Jean-Marie Charon dans ce journal.
Les forces de l'ordre aussi sont encore en première ligne aujourd'hui, alors qu'une marche blanche est prévue en mémoire de la porte-parole des policiers en colère qui s'est suicidée.
Dans l'actualité internationale, c'est peut-être un moment historique pour Taïwan. Plusieurs votes ont lieu aujourd'hui, Pékin pourrait reprendre le contrôle de l'île dissidente. Et puis des frappes militaires au Mali menées par les forces françaises, nous irons à Bamako. Des foulards violets contre les violences faites aux femmes en guise de drapeau blanc. Dans le sillage de la vague de témoignages MeToo, le mouvement Nous Toutes appelle à une déferlante féministe aujourd'hui dans les rues de Paris, notamment pour dénoncer les violences sexistes et les violences sexuelles. Ce sera entre la place de l'Opéra et la place de la République. Parmi les militants très mobilisés, Nicolas Olivier a rencontré deux lycéens.
C'est quelle heure le départ déjà ?
C'est à 13h45 à peu près.
Ah oui, c'est vrai.
Parce que c'est pas très loin.
Dernier préparatif pour Julie et Solal. En terminale au lycée Racine, ils ont distribué des tracts et placardé des affiches pour tenter de convaincre leurs camarades de participer à la marche.
C'est très important parce qu'il y a plein de gens qui s'en rendent pas compte, mais les violences sexistes et sexuelles arrivent beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. C'est quelque chose qui est quotidien pour plein de femmes. Il faut que ça s'arrête parce que ça peut plus continuer comme ça.
Julie n'arrive plus à compter les agressions qu'elle a subies dans le métro ou dans la rue. L'un des enjeux, c'est de sensibiliser les hommes et c'est plus difficile, reconnaît Solal.
En étant homme, on ne s'en rend pas compte. La majorité des hommes considèrent que c'est profondément normal. Et c'est le problème. Le combat ne doit pas être uniquement féminin. Ça concerne les hommes et conscientiser les hommes, c'est un des moyens qu'on peut utiliser pour en finir.
En finir avec le sexisme ordinaire, le mouvement MeToo et la diffusion de vidéos d'agression a commencé à faire bouger les mentalités. Mais pour ces jeunes militants, il faut aller plus loin. Ils espèrent une marée violet.
Même si l'actualité se prête plus aux gilets jaunes, oui, il faut que ça prenne en fait, que le mouvement entraîne quelque chose de fort, de puissant.
Solal, comme Julie, se revendique féministe. Il rêve juste d'une société plus égalitaire.
En tout, une cinquantaine de lieux de mobilisation sont prévus aujourd'hui un peu partout en France. Bonjour Manon Garcia.
Bonjour.
Alors vous êtes philosophe et vous êtes l'invité donc des matins du samedi, auteur de « On ne naît pas soumise, on le devient ». Comment lutter contre ces violences dans l'esprit des jeunes d'aujourd'hui ?
Alors, c'est vrai que c'est difficile ce que disait ce jeune homme. Est vrai, c'est que les garçons qui sont en fait en première ligne, puisque une très grande partie des violences sexistes et sexuelles sont commises par les garçons et par les hommes, sont moins conscients en fait de la réalité de ce que les femmes traversent. Mais je pense que le mouvement MeToo a quand même donner lieu à une prise de conscience par les hommes. Pour moi, c'est ce qui était le plus important dans le mouvement MeToo, d'une certaine manière, c'est que les hommes ont compris, ou en tout cas certains hommes ont compris et vu ce que les femmes traversaient au quotidien, et que moi je suis convaincue que c'est par l'éducation des hommes, entre autres, enfin aussi par des mesures juridiques, etc. Mais en tout cas, l'éducation des hommes est très importante pour mettre fin à ces violences.
Il y a aussi un passage de témoin entre les générations qui peut faire avancer la cause des droits des femmes et notamment pour les plus jeunes aujourd'hui.
Oui, et en même temps, moi, ce qui me frappe et qui me réjouit, c'est que les jeunes générations sont beaucoup plus féministes que les anciennes générations. Donc, d'une certaine manière, moi, je trouve ça très intéressant de voir comment les moins de 20 ans, aujourd'hui en France, sont beaucoup plus convaincus et militantes et actives sur ces fronts-là que les générations suivantes. Donc, je ne sais pas si on a tellement besoin de leur passer le témoin, parce qu'elles se débrouillent très bien toutes seules.
Merci Manon Garcia, vous restez bien sûr avec nous pour les matins du samedi, juste après ce journal avec Caroline Brouet.
Comment contenir la mobilisation des gilets jaunes ? C'est la question qui obsède l'exécutif.
Le gouvernement scrutera l'ampleur des mobilisations heure par heure aujourd'hui pour tenter d'adapter sa stratégie dans les prochains jours. Essayer d'endiguer ce mouvement, Stéphane Robert.
Au sein du gouvernement, on s'interroge. Comment se fait-il que malgré le froid, malgré les blocages et les affrontements, malgré la crainte des commerçants à l'approche des fêtes de fin d'année, comment se fait-il que le mouvement des Gilets jaunes perdure et soit toujours aussi populaire ? Un mystère. En attendant, il s'agit d'un côté de faire face à une mobilisation potentiellement importante. 3000 policiers seront mobilisés dans la capitale avec quelques renforts qu'on pourra solliciter en cas de coup dur. Et parallèlement, on souffle le chaud et le froid en multipliant les messages de mise en garde et d'apaisement. Pour la mise en garde, c'est le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, qui s'en charge. Il appelle les Gilets jaunes à se conformer à la loi et à manifester là où c'est autorisé, sur le Champ de Mars. Et puis il dénonce les dérives d'une petite minorité extrêmement politisée, explique-t-il, qui chercherait à s'en prendre aux députés La République En Marche. Pour ce qui est de l'apaisement, Emmanuel Macron a pris les devants et indiqué qu'il présentera de nouvelles mesures en début de semaine prochaine. Son entourage, François de Rugy, François Bayrou notamment, l'invite à saisir la main tendue par la CFDT, qui veut réunir les corps intermédiaires afin de lancer une grande discussion sur la transition énergétique. Et puis une députée de la majorité, Brigitte Bourguignon, lui demande un moratoire, c'est-à-dire le report des hausses de taxes sur le carburant, afin, dit-elle, de renouer le dialogue dans un climat apaisé. Bref, au sein du pouvoir en place, on ne sait pas bien comment endiguer le mouvement des Gilets jaunes et l'empêcher de s'installer dans la durée.
Stéphane Robert, alors qu'à Paris, le ministère de l'Intérieur a indiqué jeudi que les Gilets jaunes pourraient se réunir sur l'esplanade du Champ de Mars, près de la Tour Eiffel. Un rassemblement qui parfois était violent, notamment cette semaine. Des affrontements entre automobilistes et manifestants ont eu lieu. Des journalistes également ont été pris pour cible. Des insultes, des gestes parfois violents. BFM TV ou encore le syndicat SNJ de France Télévisions dénoncent cette situation. Alors pourquoi ce climat de défiance envers les journalistes? Élément de réponse avec le sociologue des médias Jean-Marie Charron.
C'est pas si étonnant que ça, dans la mesure où quand vous regardez ce mouvement de débat autour de la qualité de l'information, de critique du travail des médias et des rédactions, mais il y a des moments de crispation. Et ces moments de crispation, effectivement, donnent lieu à des manières de repousser les journalistes, soit effectivement parce qu'on les assimile au pouvoir, soit parce qu'on leur dénie la capacité à rendre compte correctement de ce qui est en train de se passer. La confiance n'est pas au beau fixe, hein. Ça conduit aujourd'hui, me semble-t-il, à un phénomène nouveau qui est de voir un certain nombre de politiques qui, jusqu'à présent, dans leur parole publique, respectaient les médias. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui a tourné. Je pense surtout à Jean-Luc Mélenchon. On a vu des paroles étonnantes de la part d'un homme politique. Pour rire la vie des journalistes, on ne peut pas trouver des formules plus violentes, surtout quand on sait qu'on est précisément dans ce contexte plutôt assez tendu entre un certain nombre de composantes de la société et puis effectivement les médias.
Jean-Marie Charron répondait à Audrey Dumas pour France Culture.
France Culture, il est 8h08, suite du journal, avec un autre mouvement de colère, Sophie, aujourd'hui dans les rues de Paris et dans 7 autres villes de France. Le mouvement des policiers qui organise une marche blanche en mémoire de la présidente de l'association Mobilisation des policiers en colère.
Maggie Biscupsi avait 36 ans, elle s'est suicidée le 13 novembre dernier. C'est elle qui avait créé le mouvement après l'attaque au cocktail Molotov de 2 policiers à Viry-Châtillon en 2016. Depuis le début de l'année, on compte une cinquantaine de suicides dans les rangs de la police, 80 toutes forces de l'ordre confondues. Pierre est un jeune policier de 25 ans qui travaille à Paris. Il ira défiler aujourd'hui à 14h au Trocadéro.
Ça va de dépression hiérarchique pour du chiffre, cette fameuse politique du chiffre qui est une omerta chez nous, mais que tous les collègues connaissent. Ce qu'on appelle chez nous la bâtonnique, c'est-à-dire qu'il vaut mieux aller ramener 10 jeunes qui fument des joints plutôt qu'un dealer, parce que ça fera 10 bâtons au lieu d'un. Il vaut mieux aller mettre une amende pour un oubli de clignotant qu'un vol, ça va plus vite. C'est du bâton. Et quand on voit notre matériel qui est complètement obsolète, des véhicules qui roulent tout le temps, qui ont 400 000 bornes, qui ont même plus de ceinture de sécurité. Enfin, moi, j'ai du mal à aller verbaliser quelqu'un. Donc, contrôle technique n'est pas bon quand on voit l'état de nos véhicules. En tout cas, pour la majorité des flics, je pense que c'est pas pour ça qu'on s'est engagé. On a pu voir les violences sur les différentes manifestations récente et rien n'est fait là-haut. On continue la marche des suicides à quasiment un par semaine. Quand vous avez l'année dernière le préfet qui dit qu'on est des grands affectifs, et je vais reprendre exactement ces mots, hein. Ils aiment qu'on les aime et ils aiment qu'on leur dise qu'on les aime. On n'a pas envie d'entendre de notre préfet qui nous aime particulièrement, on a envie juste de soutien.
Image recueillie au micro de Florence Turme.
Au Mali, la force française Barkhane a effectué une nouvelle opération antiterroriste dans la nuit de jeudi à vendredi dans le centre du pays.
Cette opération a permis la mise hors de combat d'une trentaine de terroristes, a annoncé hier soir l'état-major dans un communiqué. La ministre des Armées, Florence Parly, a de son côté salué une action d'ampleur complexe et audacieuse qui a permis de neutraliser un important détachement terroriste. Il est probable que Amadou Koufa ait été tué. C'est le principal chef djihadiste du centre du Mali, une zone où se mêlent djihadisme, opérations antiterroristes et tensions communautaires et où les violences sont quasi quotidiennes. À Bamako, Marie Matigo.
La force française Barkhane est intervenue dans la région de Mopti avec des moyens très importants, des avions de chasse, des hélicoptères et même des drones. Les militaires ont d'abord mené des frappes aériennes pour surprendre le groupe djihadiste, puis des combats ont eu lieu au sol. Selon l'armée française, une trentaine de terroristes ont été mis hors de combat, c'est-à-dire tués. Et parmi eux se trouvait probablement Amadou Koufa, le chef de la Katiba du Massina et le principal leader djihadiste du centre du pays. Si sa mort se confirme, ce serait l'un des coups les plus sévères portés au groupe terroriste malien. Mais pas sûr que cela ne permette d'améliorer immédiatement la situation dans le centre où, à cause de la présence de groupes djihadistes et de l'absence de l'État, les violences intercommunautaires se sont exacerbées ces dernières années. De nombreuses communautés ont mis en place des groupes armés d'autodéfense et les civils sont régulièrement pris pour cible. Ainsi, à Wenkoro, une dizaine de civils peuls ont été tués ces derniers jours. Le maire accuse des chasseurs Dogon d'être les auteurs de ces meurtres. Selon les Nations Unies, entre janvier et août, plus de 500 personnes ont été tuées dans des violences communautaires dans le centre du Mali.
Marie Matigo à Bamako pour France Culture. La Chine et les États-Unis ont les yeux rivés aujourd'hui sur Taïwan qui vote pour des élections locales et pour un référendum. Le scrutin est le premier depuis la victoire en 2016 du Parti progressiste démocratique. À mi-mandat, la présidente actuelle Tsai est en difficulté face à la montée en puissance du Kuomintang, proche parti de Pékin. Les Taïwanais sont appelés à se prononcer aussi dans le cadre de plusieurs référendums, donc sur des sujets de société qui irritent la Chine. À Pékin, Dominique André.
Objet d'un bras de fer entre la Chine et les États-Unis, Taïwan renouvelle ses maires et tous ses représentants locaux, 19 millions d'électeurs, sont appelés à se prononcer. L'enjeu est géostratégique. Le PDD, Parti progressiste démocratique de Madame Tsai, hostile au principe d'une Chine unique, va-t-il garder le contrôle des villes et comtés de Taïwan? Le Kuomintang, proche de Pékin, qui a perdu la présidentielle en 2016 et pour la première fois sa majorité au Parlement, regagne du terrain à la faveur de difficultés économiques et de réformes impopulaires, comme la réduction des pensions de retraite et du nombre de jours fériés. Très active, la démocratie taïwanaise appelle la population à se prononcer aussi sur 10 référendums qui portent sur des questions sensibles comme le mariage entre personnes du même sexe et sur le nom que Taïwan portera dans les compétitions internationales. La Chine refuse que l'équipe olympique taïwanaise porte le nom de Taïwan aux prochains Jeux olympiques. La Chine et les États-Unis suivent avec une grande attention cette journée qui indiquera si Pékin peut, en cas de percée du Kuomintang, reprendre le contrôle de Taïwan lors de la prochaine élection présidentielle en 2020.
Dominique André. Theresa May est à Bruxelles ce soir. La première ministre britannique a rendez-vous notamment avec le président de la Commission européenne pour tenter d'ultimes tractations alors que l'intransigeance de l'Espagne sur le dossier de Gibraltar pourrait bloquer l'accord sur le Brexit, la sortie de l'Union européenne, à la veille du sommet extraordinaire prévu demain. Le changement climatique affecte déjà les économies américaines et mondiales. Les conséquences négatives ne feront que s'aggraver si des mesures drastiques ne sont pas prises immédiatement. C'est le résultat d'un rapport publié aujourd'hui aux États-Unis, rédigé par plus de 300 scientifiques. Il précise que d'ici au milieu de ce siècle, les pertes annuelles aux États-Unis liées au changement climatique pourraient atteindre des centaines de milliards de dollars. Des orages le matin sur la Corse, le Gard est en vigilance orange, attention risque d'inondation. De la pluie signalée toute la journée sur le Nord, la Bretagne, les Pays de la Loire et la Gironde. Alternance de soleil d'éclaircie de l'Alsace à la vallée du Rhône. Un grand soleil en revanche devrait briller le long de la Méditerranée toute la journée. Les températures sont douces aujourd'hui. Ce matin, 4 à 16 degrés, 4 degrés à Chambéry, 5 à Belfort et à Lille, 6 à Lyon, 7 à Paris, 8 à Bordeaux, 12 à Biarritz, 14 à Nice et jusqu'à 16 degrés à Ajaccio. On ira même jusqu'à 18 degrés cet après-midi, Caroline.
Mais il fait moche.
Enfin, et il fait gris, il fait voilé.
C'est de la vitre à Paris.
Je vous l'accorde.
À tout à l'heure pour le prochain journal, Sophie Delpont. C'est la deuxième heure des matins du samedi avec à 8h52 la chronique culinaire de Jackie Durand qui nous parlera de la place des hommes en cuisine. À 8h45, l'idée culture aujourd'hui de la philosophe Sandra Laugier. À 8h30, la revue de presse de Natacha Triou. Et tout de suite, on va parler des femmes et des hommes.